Vous êtes sur Radio Pleine Lune 93.8. Ce soir, histoire d'une vie, histoire d'Eugénie Abbé, juive née en Pologne en 1913. La semaine dernière, nous avons écouté la première partie de ce témoignage, Sortir du ghetto. Ce soir, nous écoutons Les années de guerre.
Si tous les nazis avaient des clochettes, chaque fois que la Russie leur flanque une piquette, ça ferait tendre à fût qu'on ne s'entendrait plus.
J'étais arrivée à Rome. Rome était une ville ouverte et j'étais couvre-feu. Quand on est arrivé, ça a été la nuit déjà, et tout était fermé. Comme la nuit que nous arrivons à Rome, un ministre très important est arrivé à la maison des Allemandes, qui était tout près où on aurait dû aller. Alors les Américains ont bombardé, mais ils n'ont pas touché la maison des Allemands, ni le ministre, mais beaucoup de maisons à côté. Une de celles-là était le professeur qui aurait dit, pour qui j'avais une lettre pour me faire opérer après. Mais il était mort. Et la villa où nous avons eu des clés, étaient tous les vitres étaient cassées, tout. Mais il y avait une chambre, une pièce, un salon, que les vitres sont restées. Alors là, nous nous sommes installés. Là, il fallait chercher quelqu'un qui devrait m'opérer.
Il ne faut pas désespérer, on les aura. Vous arrêtez de résister. N'oubliez pas la lettre V. Écrivez-la, chantonnez-la, bébé. Sur les murs et sur les pavés, faites des V. Mais vous pouvez faire en effet les doriforts. Et sans remords, et sans danger. Et sans danger, vous sifflerez et chanterez bébé.
Presque aussitôt, les alliés sont arrivés à Rome. C'était le 5 juin. 5 juin, le soir. J'étais là, dehors. Nous avons, dans la terrasse de la ville où nous étions, Marco, Sacha et moi, nous avons vu les Allemands sortir de Rome, tout pour traîner leurs fusils, on les laissait comme ça. Et Marco et Sacha ont décidé d'aller en avant des Américains. Alors ils sont sortis, ils sont allés à la porte de San Paolo, tu sais où, là. Alors là, ils ont trouvé deux Américains. Ils ont dit, pourquoi vous ne venez pas? Parce que la ville vous attend. Ils ont dit, non, il faut que les Allemands soient vraiment sortis. Et c'était deux garçons du Bronx, juifs, tous les deux. Alors, Marco et Sacha ont dit, si vous libérez quelqu'un, c'est nous. Les Italiens, je ne sais pas, mais nous, vous libérez. Ça, c'est. Et le soir, j'ai assisté à l'arrivée des troupes américains qui ont donné, il y avait énormément de monde, qui donnaient des cigarettes et des chocolats. Je voulais rien, moi, parce que j'attendais quelque chose d'autre, être libérée vraiment, que manger un morceau de chocolat, même si j'avais tellement faim.
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.
Le jour après, Sacha a porté un officier américain chez nous. Alors, il a dit, je vais manger quelque chose, faites-moi des bonnes spaghettis. J'ai dit, où est-ce que je prends des spaghettis? On n'avait rien. Il a dit, il a sorti un dollar. Il m'a dit, va acheter. J'ai dit, on ne peut pas acheter avec rien. Il a été étonné. Il a dit, comment? Avec les billets verts?
Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia a metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia.
Ho trovato dei polonesi che faisaient partie d'alliés allora. Hein? Et les premières qui étaient venues chez nous, aussi les jours après, ou des jours après, j'étais là et tout d'un coup, ils me demandent, mais vous, vous n'êtes pas juif. Je me suis fâchée. Je dis, j'ai tellement souffert parce que je suis juif. J'ai tellement souffert. Maintenant, vous dites que je ne suis pas juif. Vous demandez, je suis juif ou non. J'ai dit, je vais me l'écrire maintenant ici, comme ça vous voyez. Je suis 100% juif.
Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre. L'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre. L'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste.
À quel moment tu vas accoucher?
Elle est née le 19 juillet. Et on n'avait rien, même pour envelopper l'enfant. Alors, une fille qui, elle, était venue de Leningrad. Elle faisait partie des partisans. Elle m'apportait de la Croix-Rouge un paquet avec des choses pour envelopper Gratia, hein.
Et tout de suite après, Sacha, ton mari, part.
Il est parti quand Gratia avait 18 jours. Il est parti et je ne savais pas où elle était.
Il est parti pour se battre.
Pour se battre. Il a dit que jusqu'à maintenant, il a aidé, il a fait ça, mais il voulait se battre avec les Allemands. Mais étant médecin, on l'a mis dans un hôpital militaire, mais je ne savais, c'était secret. Je ne savais pas où et quand il revient. Mais l'ambassade, c'est la polonaise russe ancienne, me donnait à manger, c'est-à-dire des produits. Mais je n'avais pas d'argent. Quand Sacha est parti, j'avais 10 000 lire. Et quand il est revenu, j'avais les mêmes 10 000 lire. Parce qu'avec ces produits, j'ai échangé pour le lait, pour le pain. Dans la ville. Dans la ville, après, était occupée par des officiers, des soldats russes et polonais aussi. Et j'étais toujours en amitié avec eux. Mais ils voyaient la première fois depuis tant un enfant. Alors même si elle dormait, dans son petit lit, ils enlevaient pour les câliner, pour les porter. Alors je demandais au colonel, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ne sont pas mauvais, ils sont même très, très gentils avec la petite, mais ils ne la laissent pas dormir. Alors il a mis une espèce de carte où c'était écrit que c'est interdit d'aller enlever l'enfant d'Evgenia Ivanovna, c'était moi, quand elle dort. Et il doit venir chez moi me demander s'il peuvent caresser la petite. Je suis restée une année exacte toute seule, avec Razia, et c'est tout. Quand, tout de suite, après la guerre, que grâce à elle, je voulais revenir à travailler. Et je suis allée à l'université. Je voulais faire une recherche. Mais un jour, quand je suis rentrée, la petite avait fièvre et elle avait une diarrhée. J'ai eu tellement peur que je ne suis jamais plus revenue à travailler. Et les gens là, les officiers, me demandaient quelquefois de danser. J'ai dansé, mais j'ai gardé Grazia dans les bras, comme ça. J'ai dansé avec elle, mais j'avais ici la fille. Hein? Je ne la laissais jamais. Un jour que je suis sortie, que j'ai laissé Angeline avec la petite, voilà que toutes les cloches de Rome ont commencé à sonner. Et j'ai demandé à quelqu'un, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça dit? C'est la fin de la guerre.
C'était quand?
C'était mois de mai, hein, 45. Alors, j'ai eu comme une folie. J'ai commencé à, comme un oiseau, à courir. Et avec les mains comme ça, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et que quelqu'un crut que j'étais vraiment un peu folle. Mais qu'est-ce que c'est fini? Mais la guerre, la guerre. Et je suis rentrée. Et Grazia dormait. Alors j'ai attrapé la petite et j'ai commencé à pleurer. Elle aussi pour pleurer parce que je l'ai sortie, elle dormait. Et j'ai pleuré comme jamais avant et comme jamais après. J'ai pleuré de joie, mais aussi de douleur que j'étais toute seule. Je ne savais pas où Sacha. Et que finalement, cette troisième enfant est vivante. Et voilà, c'était fini. Et quand s'approchait le premier anniversaire de Grazia, que j'avais demandé des amis de venir, qu'ils ont acheté au marché noir une bouteille d'huile et ils ont fait des haricots verts. Voilà que Sacha me téléphone de Bari, qu'il arrive. Et il est arrivé pour le premier anniversaire de Grazia. Là, ça commençait donc une vie tout à fait différente.
Bientôt l'on racontera une histoire qui arrive à Hitler et à ses mauvais
soins.
Partout en Amérique, c'est vraiment fantastique, toutes les armes que l'on fabrique. Il y a des tanks, des avions, des bateaux, des canons, on ne ménage pas des millions. Quand tout ça sortira sur un air de Java, il n'y aura rien eu pareil sur un air de Javeille. Qu'est-ce qu'ils prendront les frites sur un air de Javits? Voyez la gueule d'Hitler sur un air de Javert. Oh, voyez ce que fait Roosevelt. Oh, c'est la plus bête des Java. Voilà déjà qu'en Russie, ça va de mal en pis. Ils ont les pieds gelés, les nazis. Ils s'éloignent de Moscou, ils reçoivent de grands coups. Le climat ne leur plaît pas du tout. Dans la neige et le froid, ils sont glacés d'effroi. Et ils se débitent en désarroi. pour les boches, ça ne va pas. Sur un air de Java, de Rostova, Nojaïsk. Sur un air de Javisk, les Allemands se replient. Sur un air de Javille, Hitler en a la trouille. Sur un air de Javouille. Ah, voyez ce que fait Staline. Ah, c'est la plus bas des Java. Hitler avait promis à tous ces braves nazis que la guerre serait bientôt finie. Une fois la France vaincue, les Boches avaient bien cru que l'Angleterre serait vite abattue. On attend l'avasement, mon Dieu, ça semble long. Commencent à soupirer les poissons. C'est l'Angleterre toute seule sur un air de Javol qu'a tenu tête aux Boches sur un air de Javoche. On parle plus de l'Italie sur un air de Javille. Adieu mon vieux Musso sur un air de Genevaux. Voyez ce que fait Churchill. C'est la plus bête des Javas.
Vous, justement, vous avez plus du tout de nouvelles de votre famille?
J'ai eu après la guerre, parce que après la guerre, quand nous avons pensé que nous reviendrons, alors les parents de mon mari habitaient l'Ukraine, qui maintenant c'est la Russie. Mon frère et mes frères, j'en avais quatre, mes frères et leur famille habitait la capitale, Varsovie, et aussi la petite ville où je suis allée à l'école et tout ça, que c'est au milieu de la Pologne, que c'est toujours Pologne. Et on pensait qu'on revient en Pologne, on va s'arranger, lui médecin, moi la pharmacien, on va quand même trouver bien le travail, et on va s'arranger bien, et on aura quand même une famille. Mais tout de suite après la guerre, on savait que personne n'est resté en vie. Nous avons parlé avec mon mari beaucoup de ça, parce que finalement, on voulait revenir. Que nous ne reviendrons pas là, parce que là, nous attendent seulement le cimetière. Et on n'a plus... Et aussi, la construction de cette Pologne qui se faisait, elle ne nous convenait pas. Pour vous dire que l'antisémitisme en Pologne est toujours vivant, même maintenant. Hein? Et presque aussitôt après la guerre, il y avait encore un pogrom. Hein? Alors, on se dit, là, c'est fini pour nous.
Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir maintenant quand justement vous voyez ce que font les femmes autour de vous?
Pas quand les filles viennent ici et me racontent justement ça qu'ils font les femmes. Et je lis beaucoup. Hein. On m'a toujours porté des livres, des journaux et tout ça. Que je faisais plus rien moi, mais j'ai participé à ça qu'eux ils font. Ou moins, disons, moralement. Parce que maintenant, disons, je suis... Mon temps est passé, n'est-ce pas? Mais je ne regrette rien. Je sais que mon temps était très riche en travail et en tant de choses.
J'ai oublié ton nom, ton visage, tes yeux, Je sais pourtant que nous étions à deux pour tirer le rouleau qui écrase les cendres. Et que tu me parlais avec des mots très tendres de ton pays lointain, d'avenir, de beauté. J'ai oublié ta voix, ta langue et ton accent, compagne inconnue. Mais à travers le temps, je sens me réchauffant ta main toujours présente quand il faisait si froid. Quand, glissant sur la pente, nous poussions à deux un si lourd wagonnet. J'ai oublié le jour, la semaine et l'année quand à côté de moi tu fus soudain nommé et que tu m'as quitté allant vers ton destin. Mais j'entendrai toujours en d'autres clairs matins les coups de feu claquer et se répercuter. J'ai oublié ton nom, ta voix, tes pas, ton âge. Mais je vois ton front pur levé vers un mirage de paix et de bonté. Ton front rosé, vermeil, éclairé par les feux d'un immense soleil irradiant les lieux, chantant la liberté. J'ai oublié ta voix, ta prière et ton nom. Mais je sais que ta vie dont tu fis don à ta chère patrie et à l'humanité, n'a pas été perdue et n'est pas effacée. Qu'elle vit et revit dans la fraternité.
Vous êtes sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz. C'était dans Histoire d'une vie, l'histoire de Eugenia B., juive née en Pologne en 1913, cette semaine, les années de guerre.
Scordar potrei.
êtes sur 93.8 MHz, c'est la pleine lune sur Radio Zone. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023 depuis Genève, 033 depuis le reste de la Suisse. Je vous rappelle notre adresse, Radio Pleine Lune sur Onde Femme Radio Zone, 5 boulevard Karl Vogt, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Je vous rappelle aussi que nous avons besoin de votre soutien, alors n'hésitez pas à acheter une carte d'auditrice ou une carte d'auditeur pour la somme de 30 francs en Suisse ou 100 francs français. C'est un soutien important pour la radio.
Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mettais dans ma poche et là elle broyait du noir. Elle jouait avec les croches et s'inventait des histoires.
De la peine. puisque la femme du héros,
l'héroïne, nuit et jour, elle boit du noir à rare.
Quant à la femme du voisin,
pas copine, petite vie et pas d'histoire, pas d'histoire, pas d'histoire, pas d'histoire. Cause par le monde chercher partout où, où, celui qu'on peut admirer en osmose avec l'univers entier.
Mais la route du courroux,
la gouvernance, elle m'a caché ses ornières et verres.
Au début le vol plané,
turbulence, puis le plongeon en enfer, en enfer, en enfer, en enfer. À sa danse, voici le temps de l'errance. 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 Voici le temps de l'errance.
Tout au fond des mots,
la loulina, loulina, loulina.
Vous êtes sur Radio Pleine Lune dans le 3.8 MHz. Nous écoutons Daniel Messia.
Il neige sur la ville, petit flocon timide, petit baiser humide de la neige tranquille, des ombres qui circulent dans le jour qui se lève comme des somnambules emmêlés dans leurs rêves. L'enfance qui te vape, la nostalgie qui frappe à la porte engourdie, des souvenirs enfouis dans le drap de l'oubli.
Venez nous voir la nuit.
avec les fous.